VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, 17h30 GMT, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 5 avril 2017. John Lydon en direct du studio 13 de VOA Afrique à Washington DC. Au sommaire ce soir, RDC, Joseph Kabila annonce qu'un premier ministre sera nommé dans les 48 heures et demande au rassemblement de mettre fin à ses querelles internes.
J'invite le rassemblement à surmonter ces querelles intestines en vue d'accélérer le processus de formation du nouveau gouvernement d'union nationale.
En Afrique du Sud, l'ANC appelle à l'unité, ce qui est perçu comme un soutien à Jacob Zuma, dont plusieurs voix réclament la démission. Au Sénégal, rejet de la demande de remise en liberté provisoire du maire de Dakar, rival potentiel au chef de l'État. Le Conseil de sécurité de l'ONU est réuni en urgence à New York pour débattre de l'attaque présumée à l'arme chimique en Syrie. Et puis, retrouvez Nicolas Pinot à la fin de ce journal pour les sports et Jacques Aristide pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a annoncé la nomination dans les 48 heures d'un nouveau premier ministre en application de l'accord conclu entre le pouvoir et l'opposition. Le 31 décembre dernier, la majorité et l'opposition ont signé, sous l'égide de l'épiscopat congolais, un accord de cogestion après l'expiration du mandat de M. Kabila. Cet accord prévoit le maintien au pouvoir de M. Kabila jusqu'à l'entrée en fonction d'un successeur élu lors d'une élection avant fin 2017. Je vous propose d'écouter un extrait de l'adresse de Joseph Kabila, recueilli par Thierry Kabundi de Top Congo FM.
Au cours de ces dernières 48 heures, j'ai été à l'écoute de la classe politique et sociale. J'ai noté une convergence de vues, notamment sur l'urgence qu'impose le règlement de deux points relatifs à la mise en œuvre de l'accord, spécialement en ce qui concerne la question de la désignation d'un nouveau Premier ministre. Un large consensus s'étant dégagé sur la procédure de désignation de celui-ci et sur les compétences de l'autorité de nomination. J'invite le rassemblement à surmonter ces querelles intestines et à harmoniser les vues. Sur la liste des candidats Premier ministre, en vue d'accélérer le processus de formation du nouveau gouvernement d'union nationale. Le Premier ministre sera impérativement nommé dans les 48 heures.
Le président congolais Joseph Kabila, propos recueillis par Thierry Kabundi de Top Congo FM. Toujours en RDC, trois personnes d'ethnie Nandé et Houndé ont été tuées mercredi lors d'une attaque attribuée à des miliciens Hutus dans le Nord Kivu, théâtre de rivalités communautaires meurtrières. En Afrique du Sud, l'ANC au pouvoir a appelé à l'unité pour tenter d'apaiser ses propres divisions internes. Cet appel est vu comme un soutien implicite au président Jacob Zuma après son remaniement ministériel controversé. Le point avec Arzuma Kampaoré.
Le secrétaire général de l'ANC, Gwede Matache, a insisté sur le besoin d'unité du parti et de ses alliés dans l'intérêt de l'Afrique du Sud. Selon lui, le parti ne va pas démettre le président Zuma de ses fonctions juste parce que l'opposition le demande. Le limogeage vendredi du respecté ministre des Finances, Pravin Gordhan, a causé pas mal de remous. Le vice-président de l'ANC, Cyril Ramaphosa, l'a qualifié d'inacceptable. Le Parti communiste et la puissante centrale syndicale, la COSATU, alliés historiques de l'ANC, ont demandé le départ du président sud-africain. La commission d'intégrité de l'ANC s'est dite profondément perturbée par l'absence de consultation. Muzi Meiman, leader de l'Alliance démocratique principale parti d'opposition, a appelé aux côtés de quatre autres formations, dont les combattants pour la liberté économique de Julius Malema, à l'organisation d'un vote de défiance au Parlement. Mais Jacob Zuma, malgré les nombreux scandales qu'il traîne derrière lui, a déjà survécu à plusieurs motions de censure.
Restons en Afrique du Sud. Pretoria devrait exposer vendredi les raisons de son refus en 2015 d'arrêter le président soudanais Omar El-Béchir, poursuivi pour génocide lors d'une audience devant la Cour pénale internationale qui pourrait décider de renvoyer l'affaire devant l'ONU. Les juges évalueront après cette audience d'une journée à la haie si l'Afrique du Sud a manqué à ses obligations en tant que signataire du statut de Rome, traité fondateur de la CPI. La justice sénégalaise a rejeté la demande de remise en liberté provisoire du maire de Dakar, Khalifa Sall, inculpé et écroué pour détournement de fonds publics. Khalifa Sall, maire de Dakar depuis 2009, est probable candidat à l'élection présidentielle de 2019 contre le chef de l'État Macky Sall, doit répondre des dépenses non justifiées de plus de 2,7 millions d'euros prélevés sur plusieurs années, selon la justice, dans les caisses de sa mairie. Il est depuis le 7 mars en détention préventive à Dakar. Un tribunal de Bamako a condamné mercredi à 6 mois de prison un responsable de l'hebdomadaire privé Le Figaro du Mali pour diffamation envers le président de l'Assemblée nationale malienne, Issaka Sidibé. Le président n'a pas précisé si la peine prononcée contre Ami Baba Cissé était ferme ou avec sursis. Le journaliste condamné n'a pas été arrêté après l'annonce du jugement. Toujours au Mali, 4 hommes ont été inculpés hier en lien avec l'enlèvement en février d'une religieuse colombienne dans le sud du Mali, puis incarcérée à Bamako. Gloria Cecilia Navaez Argoti a été enlevée le 7 février près de Koutiéla par des djihadistes présumés, selon le ministère malien de la Sécurité. Les autorités nigérianes ont lancé aujourd'hui une campagne de vaccination dans plusieurs régions pour tenter de juguler une épidémie de méningite qui a déjà coûté la vie à 336 personnes depuis fin 2016. En 2015, plus de 13 700 personnes avaient été infectées et plus de 1100 étaient mortes lors de méningite au Nigeria et au Niger voisin. Le parti au pouvoir au Burundi, le CNDD-FDD, est accusé de faire payer des cotisations forcées pour financer entre autres la construction de permanences de monuments en son honneur par des citoyens et des opposants qui évoquent un racket. Le parti au pouvoir, toujours lui au Burundi, a d'autre part tenté aujourd'hui de se démarquer d'une vidéo montrant des membres de sa ligue de jeunesse, les Imbonerakure, menaçant dans des champs de mettre en scène des opposantes. L'opposition a demandé un appel au viol. Au moins 7 personnes ont été tuées, plus d'une dizaine blessées mercredi dans l'explosion d'un véhicule piégé dans le centre de Mogadiscio. L'attentat n'a pas été immédiatement revendiqué, mais les islamistes radicaux Shebab ont l'habitude de mener de telles opérations dans Mogadiscio. Le premier ministre français Bernard Cazeneuve entame ce mercredi une visite de 2 jours en Algérie axée sur le renforcement des partenariats économiques et la lutte antiterroriste.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni d'urgence ce mercredi à New York. En Syrie, une attaque présumée à l'arme chimique a fait au moins 72 morts, dont 20 enfants à Khan Cheikhoun. Le point avec Solange Niamoulissa.
Washington, Paris et Londres ont présenté un projet de résolution devant le Conseil de sécurité pour condamner cette attaque et réclamer une enquête complète et rapide. La chancelière allemande Angela Merkel a parlé de crime de guerre qui doit être puni. Elle a exhorté la Russie et l'Iran à faire pression sur Damas. Pour le ministère russe des Affaires étrangères, le texte présenté est catégoriquement inacceptable. Son défaut est d'anticiper sur les résultats de l'enquête et de désigner d'avance des coupables. L'Iran, autre allié de Damas, condamne vigoureusement toute utilisation d'armes chimiques, quels que soient les responsables et les victimes. De son côté, l'armée syrienne dément catégoriquement toute utilisation de substances chimiques ou toxiques à Khan Cheikhoun. L'opposition syrienne a prévenu que l'attaque remettait en cause les négociations de Genève qui n'ont pour l'instant abouti à rien.
Au moins 31 personnes ont été tuées, 42 blessées mardi soir à Tikrit, au nord de Bagdad. Cette attaque est revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Le point avec Tatiana Mosso.
Selon un officier de la police irakienne, 3 kamikazes ont abattu 3 policiers. Ils ont ensuite ouvert le feu sur des civils, puis actionné leur ceinture d'explosifs. Dans un communiqué, le groupe État islamique a revendiqué l'attaque en affirmant qu'elle avait été conduite par 7 assaillants qui ont affronté les forces de l'ordre avant de se retrouver à court de munitions et de se faire exploser. Tikrit a déjà été frappé à plusieurs reprises par des attaques de Daesh, notamment en novembre 2016 lorsque 15 personnes avaient été tuées dans un attentat à la voiture piégée. Le groupe djihadiste s'était emparé de Tikrit et d'autres régions au nord et à l'ouest de Bagdad à l'été 2014. Depuis, les forces irakiennes ont repris de nombreuses zones. Actuellement, les soldats irakiens sont engagés dans une féroce bataille pour reprendre Mossoul, la deuxième ville du pays.
Le Hamas a donné une semaine aux collaborateurs palestiniens d'Israël pour se livrer et bénéficier de sa clémence, tout en maintenant le quadrillage du territoire et poursuivant la traque après l'assassinat mystérieux de Mahsen Faka, qui a succombé le 24 mars à une exécution apparemment minutieusement préparée dans le territoire. Le Hamas a promis de venger sa mort et a annoncé des mesures radicales contre les Palestiniens ayant collaboré avec Israël. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Jacques Aristide.
La croissance en Afrique subsaharienne a atteint 1,6% en 2016, son plus bas niveau depuis 6 ans, selon le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, qui déplore un essoufflement des économies du continent à l'ouverture hier à Abidjan de la 14e conférence annuelle de l'Association des fonds d'investissement et sociétés de capital risque opérant sur le continent africain. D'après lui, les économies africaines sont frappées de plein fouet par la chute du prix des matières premières et la baisse de 40% de la demande chinoise. La coupure d'Internet depuis près de 3 mois dans les 2 régions anglophones du Cameroun menace la floraison de start-up installées dans cette Silicon Mountain, d'après des entrepreneurs qui parlent de perte d'argent et de clients à l'étranger. Il s'agit de la conséquence économique du conflit politique entre le pouvoir central de Yaoundé et sa minorité linguistique. Selon l'ONG Internet sans frontières, en 60 jours, cette coupure a déjà coûté plus de 2,80 millions de dollars à l'économie camerounaise. Pénurie d'essence en Guinée équatoriale, pourtant pays producteur de pétrole. Le manque de carburant a atteint la capitale Malabo. Après la capitale économique Bata, les autorités n'ont fourni aucune explication pour l'heure.
Une musique qui ne trompe pas, Nicolas Pineau est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir John, bonsoir à tous.
Le nouveau président de la Confédération africaine s'exprime en exclusivité sur VO Afrique, une première depuis son élection.
Le malgache Ahmad se confie sur notre antenne avant son déplacement vendredi en Afrique du Sud pour rencontrer les dirigeants de la COSAFA, le football de l'Afrique australe. Ahmad reste toujours bienveillant avec son prédécesseur, le Camerounais Issa Hayatou, avec qui il n'a pas eu de contact depuis son élection. Le dirigeant malgache affirme à VOA Afrique qu'il va réintroduire une limite d'âge et une limitation à 2 du nombre de mandats pour le poste de président de la CAF. Le président Ahmad confirme aussi que l'Afrique aura bien 9 places lors de la Coupe du Monde 2026 et même peut-être 10, puisqu'une équipe africaine jouera un match de barrage face à une équipe d'une autre confédération pour décrocher son ticket pour la Coupe du Monde.
On écoutera ça tout à l'heure en deuxième partie de cette émission. Les footballeurs gabonais en colère.
Le Gabon, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, détient un triste record mondial. Selon le dernier rapport de la FIFPro, près de 96% des footballeurs évoluant dans ce pays d'Afrique centrale ont connu des retards de salaire. C'est de l'esclavage, souligne Rémi Abanega, le président du syndicat des joueurs gabonais et ancien défenseur des Panthères. 62% des joueurs locaux ne possèdent pas de copie de leur contrat, selon cette même étude.
Le président de l'UEFA tape du poing sur la table.
Alexander Seferin a prévenu qu'il n'y aura pas de ligue fermée européenne regroupant les plus grands clubs. Déclaration faite lors du 41e congrès de l'instance à Helsinki, affirmant que l'UEFA ne cédera jamais au chantage de certains clubs et de ligues porteurs de ce projet.
NBA, championnat de basket nord-américain.
Le meneur de jeu d'Oklahoma City, Russell Westbrook, a égalé le record mythique d'Oscar Robertson, vieux de plus de 55 ans, en réussissant son 41e triple-double de la saison lors de la victoire d'Oklahoma City face à Milwaukee, 110 à 79. Une autre star, LeBron James, a signé un nouveau triple-double lors de la victoire des Cavaliers face à Orlando, 112 à 102. Charlotte 10e a craqué à Washington, défaite 111 à 118. Chicago battu par les Knicks de New York, 91 à 100. Et puis Indiana, 8e, s'est offert une victoire importante face aux Raptors, 108 à 90.
Merci Nicolas.
« Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Cap à présent au dossier du jour et on commence par la Gambie où près de 900 000 électeurs sont appelés aux urnes demain jeudi pour choisir leurs 53 députés. Trois mois après l'élection historique d'Adama Barrow à la tête du pays, la coalition qu'il avait portée au pouvoir a volé en éclats. Les candidatures indépendantes se sont multipliées cette année, suivant l'analyse de la journaliste et blogueuse gambienne Aïcha Dabo au micro d'Abdourahmane Dia.
En fait, les enjeux particulièrement de ce scrutin, c'est que c'est la première fois que tous les partis politiques du pays se présentent et il y a un nombre important de candidats indépendants. Et au total, il y a 239 candidats, dont 42 candidats indépendants, donc ils n'ont pas de parti politique. L'autre enjeu, c'est le fait que le nombre de circonscriptions a augmenté. C'est passé de 48 à 53. Et l'autre enjeu majeur, bien sûr, c'est le fait que la coalition de l'opposition a gagné les élections présidentielles passées. Et cette fois-ci, même s'il n'y a pas de candidat de coalition, chaque parti politique a des candidats dans les circonscriptions.
Donc, cette coalition qui a porté Adama Barrow au pouvoir est partie aux législatives en ordre dispersé.
Oui, parce que lors des accords d'octobre 2016, en fait, il n'y avait pas d'entente par rapport aux législatives. Donc, ils avaient juste décidé d'avoir une coalition pour la présidentielle. Donc, à la veille des législatives, ils ont essayé de s'entendre, mais malheureusement, il n'y a pas eu d'accord et chaque parti politique a nominé ses candidats qui vont le représenter dans différentes circonscriptions.
Et qu'en est-il du parti de l'ex-président Yahya Jammeh qui était au pouvoir jusqu'en janvier 2017, la PRC?
Ils ont 29 candidats sur les 53 postes à pourvoir. On va voir ce qui va être leur score parce que ça aussi, ces élections, c'est une façon aussi d'évaluer de la force de ces partis de l'opposition.
D'accord. Est-ce que vous pensez que la commission électorale est prête à organiser des élections après la crise qui a secoué la Gambie?
Depuis la création de la commission électorale, il y a toujours eu des élections législatives trois mois après les élections présidentielles. Donc pour être prête, elle est prête. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème. Bon, il y a un problème qui a été signalé, c'est qu'il y a certaines personnes qui font partie des agents électoraux et qui ne seront pas votés dans leur circonscription où ils sont inscrits parce qu'ils doivent être affectés ailleurs. Je pense que ce problème va être, j'espère que ce problème va être réglé. À part ça, je ne vois vraiment pas de problème que la commission pourrait avoir pour l'organisation de ces élections-là.
On écoutait la journaliste et blogueuse gambienne Aïcha Dabo.
Dans Washington Forum ce jeudi, on décrypte le débat autour du franc CFA. La monnaie commune à 15 pays d'Afrique francophone, de l'Ouest et du Centre, héritée de la colonisation française, divise. Autrefois arrimé au franc français, il dispose aujourd'hui d'une parité fixe avec l'euro. Ce lien fort est considéré par beaucoup comme un gage de stabilité. Alors pourquoi tant de polémiques? Êtes-vous pour ou contre son abandon? Si oui, quelles sont les perspectives et alternatives? À qui profite cette monnaie, laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h, temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Au Bénin, le Parlement a refusé hier soir d'examiner le projet de révision de la Constitution. Ce projet du président Patrice Talon souhaitait notamment la mise en place d'un mandat présidentiel unique. Claire Morin-Gibour a joint l'analyste politique Gilles Yabi pour lui demander s'il était surpris par cette décision.
Je n'ai pas vraiment été surpris. C'est vrai que c'est un vote qui est indéterminé. On sait qu'il y a eu beaucoup de rencontres avant l'envoi du projet au Parlement. Donc, il était difficile de savoir si les députés allaient voter massivement et à franchir ce cap des trois quarts, qui est quand même un cap assez élevé qu'il fallait franchir pour pouvoir continuer à étudier ce projet.
Est-ce réellement un échec pour le gouvernement, pour vous?
C'est bénéfique pour le gouvernement, pour le président, dans la mesure où il a porté personnellement beaucoup ce projet de révision de la Constitution et qu'il y accordait manifestement une grande importance. Et à partir du moment où, dans un premier temps, les députés ont refusé de l'examiner en urgence, dans une procédure d'urgence, qui est difficile à expliquer, pourquoi est-ce qu'il fallait effectivement examiner un projet de révision constitutionnelle en procédure d'urgence, et évidemment le fait qu'ensuite il n'ait pas atteint à nouveau les trois quarts qu'il fallait pour poursuivre l'examen du projet de loi, même avec des modifications. Donc oui, c'est un échec politique pour le président, c'est surtout un signal. Un premier signal après un an de gouvernance de Patrick Talon, un premier signal qu'il existe, disons, des forces d'opposition politique qui sont capables, en tout cas, de lui dire non au niveau de l'Assemblée nationale.
Alors, certains députés ont même été jusqu'à dire « c'est une grande victoire pour le peuple ». Est-ce qu'on peut en conclure cela pour vous ?
Alors non, de mon point de vue, c'est aller très vite que de dire que c'est une grande victoire pour le peuple. Mon point de vue est que le Bénin a effectivement besoin d'une révision de la Constitution, voire de l'élaboration d'une nouvelle Constitution, pas parce que l'actuelle est nouvelle, mais parce que on devrait tirer des leçons des pratiques politiques qui sont négatives, qui ont quand même donné une démocratie qui fonctionne, mais qui est quand même corrompue. Et je crois qu'on a eu aussi à l'Assemblée nationale la manifestation de cette corruption, puisqu'il y a eu une déclaration notamment de Mme Sommeux, une députée, qui a ouvertement dit qu'il y avait eu des députés qui avaient reçu de l'argent pour, disons, voter en faveur du projet. Et donc, je pense qu'on a une responsabilité, c'est de chercher à améliorer nos institutions. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas à nouveau que tous ceux qui se sont opposés au projet avaient forcément en tête l'idée d'une amélioration de cette vision, ou l'idée même à nouveau d'aller vraiment beaucoup plus loin dans les innovations institutionnelles dans le pays du droit de l'homme.
Gilles Yabi, fondateur de WATI, think tank citoyen pour l'Afrique de l'Ouest.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
En République démocratique du Congo, l'avènement de l'Internet mobile fait chuter les recettes des cybercafés. Dans le Nord Kivu, les utilisateurs ont commencé à déserter les salles connectées, maintenant obligés de mettre la clé sous la porte ou de s'adapter. L'arrivée de la 3G est-elle une menace pour les cybercafés? Le reportage de notre correspondant à Goma, Charlie Kasereka.
Avec ses 9 machines laptop rangées dans un local de 8 mètres sur 15, Madame Jolie est dans les secteurs depuis Neva aujourd'hui, dans un quartier résidentiel à Goma.
Par avant, on arrivait même à avoir la recette de 40, 50 dollars. Mais aujourd'hui, 20 dollars, vraiment, c'est très difficile. Et cela nous pénalise. Payer les impôts, les loyers, l'électricité pour nous adapter. Nous vendons des matériels bureautiques, mais aussi des beignets, des sucres.
D'autres qui n'ont pas résisté ont fermé carrément leurs portes et comme Laurent, la trentaine révolue, est un ancien propriétaire d'un cybercafé ici à Goma. Il a vite changé d'activité pour échapper à la faillite totale.
Oui, c'est déjà un souci parce qu'on ne peut pas continuer sans pour autant avoir quelque chose dans les services qu'on est en train d'entreprendre. On a peur que dans l'avenir, les cybercafés ne fonctionnent plus.
Ils sont nombreux aujourd'hui, ceux qui ne se souviennent plus de la dernière fois qu'ils ont franchi la porte d'un cybercafé. Les anciens adeptes des cybercafés ont depuis migré vers ce qui les semble facile aujourd'hui, accessible partout et les plus économiques avec une gamme de services, en plus d'une possibilité de partager la connexion mobile avec leur laptop.
Je recharge les mégas dans mon téléphone et je partage la connexion avec ma machine. Okay. Si je me rappelle bien, je suis allé dans un cyber, ça date d'il y a environ 3 ans comme ça. En moyenne, par jour, je peux utiliser seulement $1.
Survivre ou disparaître, M. Blaise Ndola, comme M. Ramazani, pense que les cybercafés ont encore leur place à condition qu'ils s'adaptent et se développent de nouvelles stratégies.
Si on restait à la technologie actuelle, c'est vrai, les cybercafés n'ont pas d'avenir, mais peut-être avec l'avènement de la fibre optique, ça peut faire à ce que les cybercafés aient un peu d'avenir, ou du moins pour ceux qui n'utilisent pas des smartphones.
Mais par rapport à l'ensemble de la République démocratique du Congo, ou une frange de nos papas, pour eux, ils peuvent aller se connecter au cybercafé.
L'un de ceux qui luttent pour l'accès à l'Internet au mois de mi-août, M. Arsène Tungali, pense que cette mutation va permettre au plus grand nombre de personnes d'avoir accès à l'Internet en RDC et dans beaucoup d'autres pays d'Afrique.
Donc autant nous avons des smartphones qui sont à moindre prix, autant nous avons autant et beaucoup de
personnes qui vont se connecter à Internet. Et c'est ainsi que nous serons en train d'accroître notre taux d'utilisateurs d'Internet dans ce pays. Les dernières statistiques donnent 4%.
La concurrence qui existe aujourd'hui entre les maisons de télécommunications facilite la tâche aux usagers qui, avec seulement 1 dollar américain pour 100 mégabytes, la journée est aussi bien assurée en communication. Charlie Kassereka depuis Goma pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le foot africain a soif de changement. Le nouveau président malgache de la Confédération africaine de football revient en exclusivité pour VO Afrique sur les chantiers et les réformes qu'il entend mener pour faire entrer le football africain dans une nouvelle ère. Je vous propose de l'écouter dans cet entretien réalisé avec Nicolas Pino.
Il y a beaucoup de réformes à faire au niveau administratif. Il y a des efforts entrepris, c'est vrai, pendant 29 ans, mais par rapport aux changements qui s'opèrent aussi au niveau du management international, il y a beaucoup d'efforts à faire.
Allez-vous engager un audit des finances de la Confédération africaine de football?
Ça, c'est une règle. Ce n'est pas une suspicion ou quoi que ce soit, mais c'est une règle lorsqu'on prend une fonction dans une grande institution comme ça, même des petites institutions. La règle, c'est de faire un audit tout d'abord.
Depuis votre élection, vous avez eu des propos très conciliants, plutôt bienveillants vis-à-vis de votre adversaire, Issa Hayatou. Pourquoi?
C'est ma manière de voir les choses et surtout, moi j'ai toujours dit, M. Hayatou, je le considère comme un parent. Il a l'âge de mes oncles, donc moi je le respecte en tant qu'homme. Et c'est aussi mon éducation. Je n'ai pas de contact avec lui.
On a beaucoup dit que Gianni Infantino, le président de la FIFA, avait eu un rôle et avait fait campagne pour votre élection. Quelle est votre réponse?
Non, je n'ai pas vu. Je ne sais pas s'il a fait en dehors de moi, mais je n'ai pas vu.
Mais en tout cas, ce sera un partenaire important pour développer en plus l'Afrique du football.
Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Si on veut aller de l'avant, si on veut vraiment développer le football, si on aime le football, il faut réunir tout le monde, sans exception. Surtout la FIFA, qui est, quoi qu'on dise, le premier sponsor du football. Surtout dans les pays en voie de développement, comme en Afrique, il y en a beaucoup. J'ai été président de fédération, j'ai réorganisé, ma fédération, on a participé à diverses compétitions, c'est grâce à la FIFA.
Vous étiez à Zurich la semaine dernière et a notamment été validé lors de ce conseil le nombre de places pour chaque confédération lors de la Coupe du Monde 2026 qui comptera 48 pays. Vous confirmez l'Afrique aura 9 places lors de cette Coupe du Monde?
Il y a 9 qui sont déjà acquis et demi, c'est-à-dire Riyad Barrage ou un pays africain avec quelques pays d'autres continents aussi qui vont se retrouver en match de barrage. C'est une grande évolution.
Concernant cette Coupe d'Afrique des Nations qui est organisée évidemment chaque début d'année, tous les deux ans, quelle est votre réflexion? Évidemment, vous êtes favorable à garder ce calendrier, plutôt le déplacer pour coller avec les calendriers européens. Quelle est votre préférence?
Moi, c'est ça. La différence, c'est que lorsqu'on est responsable, on ne doit pas toujours agir par rapport à votre personne. Il faut agir par rapport au groupe, par rapport à ce qui est bien pour le continent. Moi, je ne pose même pas de questions si la majorité, si les paramètres sont pour le déplacement des dates, pour l'augmentation du nombre, pour le changement de format, je m'arrange là-dessus.
Le Malgache Ahmad, président de la Confédération africaine de football, une interview à retrouver en intégralité sur voafrique.com.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Georges Léonard Sagno. Wagner Roberts était à la console. Présentation John Lyndon, merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VO Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM.
Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wenpanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.